Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner.
Le suicide de la directrice d'une école à Pantin, la tentative de suicide d'un principal de collège à Bondy ce dimanche, lève le voile sur les difficultés rencontrées par les chefs d'établissements scolaires, notamment dans les zones d'éducation prioritaire. Plusieurs questions se posent. Quels sont les problèmes auxquels doivent faire face les directeurs? Quelles sont les spécificités de l'enseignement dans les quartiers prioritaires de la ville? Et comment les enjeux économiques et sociaux se répercutent dans l'école? Pour en parler, nous sommes en duplex depuis le studio de Radio France à Lyon avec Bernard Lahire. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sociologie à l'ENS de Lyon. Vous avez dirigé un ouvrage volumineux, Enfance de classe, de l'inégalité parmi les enfants, édité aux éditions du Seuil, où pendant 2 ans, 17 chercheurs ont enquêté sur l'environnement scolaire et familial de 35 enfants inscrits en dernière année de maternelle, avec un échantillon assez important d'enfants issus de milieux peu favorisé, avec différentes gradations dans ce peu favorisé. Et puis, ici à Paris, nous sommes en compagnie de Sabine Durand. Bonjour, vous êtes directrice d'une école à Pantin, vous êtes représentante de Sud Éducation et on vous a entendu tout à l'heure, Sabine Durand. Vous étiez dans les pieds sur terre, vous lisiez la lettre que Christine Renon a laissée avant de se suicider. En quoi la condition et les différents problèmes qu'évoque Christine Renon dans cette lettre renvoient à vous, à votre quotidien de directrice d'école?
Bonjour, je voudrais juste préciser que je suis syndicaliste à Sud Éducation et que je suis pas là en tant que représentante. Et que les directeurs et directrices d'école ne sont pas chefs d'établissement. Nous sommes des enseignants chargés de direction. Je tiens à le préciser parce que c'est important pour notre métier, voilà.
Justement, quelle différence cela fait pour votre métier, Sabine Durand?
Mais on est enseignant chargé de direction, donc on tient beaucoup à nos missions pédagogiques qui sont nos missions premières, celles qui sont dévolues aux enfants et à l'éducation des enfants.
Dans cette lettre de Christine Renon que vous avez lue pour Les Pieds sur Terre sur France Culture, qu'est-ce qu'il y a qui fait écho à ce qui est votre quotidien?
Ce qui fait écho à notre quotidien dans cette lettre, c'est l'avalanche de missions qu'elle décrit. Elle dit à 3 semaines de la rentrée qu'elle est épuisée. Elle est épuisée par la quantité de tâches qui sont dévolues aux directeurs et aux directrices d'école dans leur multiplicité et dans leur complexité et aussi dans toutes les entraves qui sont faites à ces missions.
Elle est épuisée, elle est également prise en tenaille entre d'un côté l'administration et les familles. Il y a, semble-t-il, une situation qui, pour elle, est extrêmement oppressante, comme si elle avait finalement des injonctions contraires. Est-ce que c'est ça que vous avez la sensation de vivre, Sabine Durand?
Tout à fait. On est dans une institution qui, tout à l'heure, vous avez évoqué des réformes de réformes, qui se réforme sans arrêt. À chaque mandature, on a une avalanche de réformes qui contredisent souvent, parfois, les réformes précédentes. Et tout cela est extrêmement chronophage pour les équipes parce qu'une réforme, ça demande beaucoup de temps de mise en œuvre. Et une fois qu'elle peut être mise en œuvre, souvent, elle est réformée, modifiée par une autre réforme. Et ça, c'est ce que dit Christine dans sa lettre, c'est-à-dire qu'on a une multiplicité d'injonctions contradictoires qui nous font perdre parfois le sens de nos missions et qui nous font aussi perdre de vue notre mission première qui est celle d'être au service de la réussite et des progrès des enfants.
Bon, mais d'un autre côté, ce ministre, le ministre de l'Éducation nationale, comme le précédent et probablement comme le suivant, explique qu'il faut une réforme parce que la situation n'est pas tenable. Qu'en pensez-vous, Sabine Durand?
Mais le problème, c'est qu'on réforme les réformes, mais toujours avec moins de moyens ou peu de moyens. On les réforme souvent à moyens constants. Donc, chacun a son avis sur la question de la pédagogie, comment on doit enseigner, mais on prend jamais en compte la réalité du terrain et les possibilités de mettre en œuvre ces réformes.
Manque de moyens, ça veut dire quoi concrètement pour vous qui avez donc un établissement à gérer, une école à Pantin?
Ben c'est le manque de moyens humains, déjà, dans l'école. C'est aussi tous les manques de moyens pour aider les enfants.
Qu'est-ce qui vous manque ?
Les plus fragiles.
En moyen,
il nous manque des médecins scolaires, il manque des enseignants qu'on dit personnels de RAZ, donc pour aider les enfants en particulièrement en difficulté, il manque des psychologues, en dehors de l'école, il manque des orthophonistes, dans les CMPP, voilà, il manque vraiment beaucoup de personnel pour aider les enfants les plus fragiles, et c'est ça qui pèse le plus et qui nous rend d'ailleurs impuissants à aider, accompagner ces enfants les plus fragiles.
Vous, vos journées, elles commencent à quelle heure, elles se finissent à quelle heure, par exemple, Sabine Durane ?
Alors, pour lundi dernier, par exemple, j'ai commencé à 7h15, le plus souvent, je commence à 8h moins le quart et je finis souvent à 6h30, enfin 18h30, voire 19h parfois.
Vous avez vos week-ends ou vous devez travailler ?
Je travaille aussi un peu le week-end, effectivement, quand j'ai pas eu le temps de faire tout ce que je devais faire pendant la semaine. Parce qu'il faut savoir que c'est un métier où on est... On se dit qu'on va faire des choses pendant la journée, un certain nombre de tâches qui sont qui doivent être faites en un temps donné. Et puis comme on doit être extrêmement disponible pour les parents d'élèves, pour les enseignants, pour les enfants, on est souvent beaucoup interrompu dans nos tâches et donc on perd le fil de ce qu'on doit faire, mais en même temps, ce qui est demandé est toujours prioritaire.
Est-ce que vous avez également la boule au ventre ? Parce que on se dit qu'avoir des enfants sous sa responsabilité, ce n'est pas comme avoir des sacs de farine ou bref. Est-ce que ça donne un stress, une angoisse particulière ?
Alors, j'allais dire que au quotidien, on sent pas ce stress. C'est-à-dire qu'on est là pour les enfants, on est là pour nos missions éducatives, et donc on fait avec ce qu'ils sont. Leurs problématiques particulières et ce qui est stressant, c'est d'être tout le temps réactif, tout le temps disponible. C'est une charge mentale absolument très très importante.
Bernard Lahire, vous qui êtes sociologue, vous êtes en duplex de Lyon, vous avez de nombreuses études à votre actif sur l'éducation et la manière dont la situation s'est détériorée en France. Quelle est votre analyse de cet épuisement des directeurs d'école ?
Alors, nous, on n'a pas travaillé, évidemment, sur les directrices ou les directeurs d'école. On a travaillé sur les enfants. Simplement que, effectivement, quand depuis 20-25 ans, on fréquente régulièrement des écoles primaires ou maternelles et que l'on voit la fatigue, en fait, s'installer, parce que cette fatigue, elle est tout à fait réelle, les injonctions contradictoires qui ont été notées, tout ça, c'est des choses que... Tous les gens qui traînent un peu à l'école, observateurs les parents peuvent s'en rendre compte aussi, les enseignants n'en peuvent plus. Et ça se sent depuis très longtemps. Je pense que il y a aussi des problèmes de modification du métier. Les gens rentrent dans ce métier pour faire quelque chose et on leur fait faire d'autres choses. Donc il y a des contradictions, ils le vivent pas très bien et c'est normal. Et il y a de la pénibilité au travail dans ces lieux-là aussi.
Donc, ils rentrent pour faire des choses et on leur fait faire d'autres choses. Vous pensez à quoi, Bernard Lahire?
Il faudrait absolument qu'ils aient le temps maximal consacré aux enfants eux-mêmes, c'est-à-dire avoir le maximum de temps à passer pour aider des enfants, pour les stimuler, pour les gratifier, pour les encadrer, pour les diriger de manière bienveillante vers des savoirs qui sont très éloignés de certaines réalités pour certains enfants, et qui sont vraiment très très à distance de tout ce qui se passe à l'école. Et en fait, sans parler des directeurs, des directrices d'école, qui ont une charge incroyable, de plus en plus, on leur demande des réunions, d'être présent à d'autres moments, etc. En plus, une classe, ça se prépare. Il y a tout un travail extérieur qui ne se voit pas. Toutes les choses qu'on peut dire sur les fonctionnaires en général et sur les enseignants en particulier, sur le fait qu'ils ont beaucoup de vacances, beaucoup... voilà, ils ont du temps, c'est, tout ça est faux. Il suffirait d'études précises, qui existent d'ailleurs, pour établir la charge énorme des enseignants. Et encore une fois, les enseignants devraient avoir le plus de temps à consacrer avec des aides adaptées. Il a été évoqué des médecins scolaires, des psychologues scolaires. Il faut des aides. Il y a des enfants qui sont en situation de handicap, de fragilité diverses et variées. Et tout ça, ça suppose une énergie et un temps, une disponibilité à la fois mentale et temporelle importante.
Sabine Durand, vous qui êtes directrice d'école, alors vous l'êtes depuis 2 ans, donc vous êtes une jeune directrice d'école. Est-ce qu'il faut un statut particulier? Parce que après tout, on peut vouloir être prof, être un bon prof, et puis finalement ne pas pouvoir se retrouver chef d'établissement. C'est pas le même métier.
Alors, la question du statut, elle ne va pas alléger la tâche de travail. Le statut va pas modifier les missions. Par ailleurs, instaurer un statut pour les directeurs et les directrices d'école, ça risque d'éloigner les enseignants chargés de direction que nous sommes, des équipes et des familles. Et ça, c'est pas du tout souhaitable pour l'école. Parce que à l'école, il y a une relation de proximité avec les familles.
Quand vous êtes enseignant.
Quand on est enseignant, voilà. Il y a une relation de proximité avec les familles, avec les enseignants. Et ce qui est important, c'est d'être dans un projet collectif d'école pour pouvoir être au plus près des besoins. C'était évoqué par Bernard Lahire tout à l'heure, mais être au plus près des besoins des enfants. Être un collectif, c'est aussi pouvoir créer du collectif dans l'école et créer des conditions d'apprentissage favorables pour les enfants, avec des temps d'échange qui sont où on peut prendre le temps d'échanger, de discuter et de voir comment on va pouvoir remédier aux difficultés de certains enfants, mais aussi créer les conditions les plus favorables pour les accueillir.
Mais il y a aussi des aspects qu'il faut qu'on évoque, Sabine Durand. La prime, je ne sais pas très bien comment l'appeler, en tout cas le salaire supplémentaire que vous touchez en tant que directrice d'école est quand même assez faible. Quelle est votre rémunération en tant que professeur des écoles et en tant que directeur d'école?
Mon salaire, je suis donc à l'échelon 9, je touche 2 950 € par mois, avec une prime, une indemnité de suggestion spéciale de 246 €.
Vous avez 19 ans d'ancienneté dans l'éducation nationale.
Oui.
Et est-ce que vous considérez, parce que vous voyez de jeunes instits, bref, la manière dont ceux-ci sont rémunérés, la question du salaire est une question qui fait partie des revendications et aussi du malaise des profs, Sabine Durand?
Oui, tout à fait. La question du salaire, elle est cruciale. C'est-à-dire que si on veut recruter des enseignants, si on veut qu'il y ait des enseignants sur le terrain, compte tenu de la charge de travail et de la difficulté de ce travail, il faut évidemment les rémunérer correctement.
Est-ce que vous pensez, là aussi, qu'il y a dans les réformes en cours des choses qui sont faites pour améliorer votre statut, votre fonction? Parce que vous dites qu'il y a trop de réformes, et on le suit bien, la multiplication de ces réformes, mais peut-être que cette réforme-là est la bonne.
Vous parlez de la réforme du statut. Pour l'instant, déjà, il y a eu des annonces là-dessus. Il y a quand même eu des tentatives l'année dernière dans le cadre de la loi pour l'école de la confiance, où ce qui concernait le statut des directeurs et des directrices et des établissements publics des savoirs fondamentaux qui devaient être instaurés dans le cadre de la loi ont été retirés sous la pression de la mobilisation des enseignants.
Pourquoi réforme-t-on autant à l'école, Bernard Lahire, vous qui êtes sociologue, qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans l'éducation nationale qui fait que, effectivement, les réformes se télescopent les unes avec les autres?
Je pense que tout part du constat qu'il y a de l'inégalité scolaire et que on peut pas impunément, alors que l'école de la République est censée apporter la même culture à tous les enfants, rester les bras ballants face à la situation. Donc ça part toujours de ce constat d'une certaine façon. Après, les réformes se font parfois au nom de la lutte contre l'échec scolaire, mais en fait font tout autre chose que de lutter contre l'échec scolaire, parfois même l'aggrave. Moi je suis étonné par exemple du fait que justement lié à ce qu'on a évoqué jusque-là, c'est-à-dire la charge des enseignants et leur fatigue à force de réformes successives dont ils ne voient pas toujours le sens, ils voient les contraintes mais très très peu d'effets positifs, ce qui est quand même un problème. On parle d'école de la confiance, je pense que le degré de confiance n'a jamais été aussi faible, donc là on peut s'interroger comme ministre sur ces questions-là.
Mais ce que dit le ministre Jean-Michel Blanquer lorsqu'il est à ce micro par exemple, il dit bon, mais de toute façon, à chaque fois qu'on fait une réforme, quelle que soit la réforme, les syndicats de profs la critiquent et ne la suivent pas. Qu'en pensez-vous, Bernard Lahir ?
Oui, mais enfin, la question, franchement, si vous disiez aux enseignants qui vont avoir un peu plus de temps à consacrer aux enfants, qui vont avoir un salaire un peu plus élevé, qu'ils vont pouvoir travailler sur des effectifs beaucoup plus faibles que ceux qui sont proposés aujourd'hui, etc., etc., s'ils avaient le temps aussi de discuter pédagogie, parce qu'il y a ça aussi, c'est ça que j'ai commencé à vouloir dire tout à l'heure, et je me suis un peu perdu dans mon raisonnement, mais il y a eu une très très forte discussion dans les années, on va dire, 60-70, qui était d'ordre pédagogique. Et ces discussions n'ont quasiment plus lieu d'une certaine façon, parce que les gens n'ont plus le temps. Donc ça, c'est un vrai problème. On devrait pouvoir s'appuyer sur des expériences qui réussissent, sur des pratiques pédagogiques qui s'avèrent plus efficaces avec certains enfants qu'avec d'autres, etc. Et tout ça, pour arriver à faire ça, il faut avoir du temps. Il faut que les enseignants puissent redevenir un peu les chercheurs qu'ils étaient d'une certaine façon. En tout cas, des gens en situation de réfléchir en permanence à leur pédagogie. Quand on place des gens en situation d'urgence ou de fatigue, ils font ce qu'ils savent faire et ils le font la plupart du temps très bien, mais ils ne peuvent pas dégager du temps pour améliorer leur pratique.
Sabine Durand, c'est vrai, la réflexion pédagogique, elle est en panne en France ?
Alors, sur le terrain, je ne pense pas qu'elle soit en panne. Effectivement, ce que dit Bernard Lahir est tout à fait juste à la lumière de ce qui se passe sur le terrain. C'est-à-dire qu'on a des enseignants qui se forment d'ailleurs eux-mêmes, qui sont dans des pratiques pédagogiques ou dans un cadre aussi de recherche personnelle, mais qui, dans le cadre d'une équipe ou de l'école, on n'a pas forcément le temps de réfléchir et travailler. D'autant plus qu'on est aussi dans une institution où on réforme les réformes, mais on réforme beaucoup la formation des enseignants.
Mais là aussi, parce qu'on explique, alors, à tort, à raison, que cette formation ne va pas, qu'elle est inadaptée.
Oui, sauf que la tendance un peu lourde de ces réformes, c'est de mettre de plus en plus vite les enseignants stagiaires débutants devant les classes, sans justement leur donner le temps d'un apprentissage, de la réflexion sur le métier, sur la pédagogie, sur la diversité des pratiques pédagogiques et de leur adaptation à la diversité des élèves.
Et donc, là-dessus, que préconisez-vous ? Parce que plus de moyens, apparemment, le ministre n'en parle pas, alors peut-être que c'est une omission temporaire, mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous réclameriez, Sabine Durand ?
Il nous faut, alors, pour les enseignants, pour les équipes enseignantes, il nous faut du temps. Il nous faut du temps pour pouvoir nous concentrer et nous recentrer sur les missions pédagogiques. Vous avez parlé des moyens. Il faut aussi les moyens pour aider les enfants les plus en difficulté. Voilà.
Et vous, vous n'aurez bientôt plus de temps parce qu'il va falloir que vous rejoigniez votre école, Sabine Durand, parce que voilà, c'est le début de la classe dans quelques instants. Et puis peut-être pour une bonne partie des auditeurs aussi, il est 8h sur France Culture. Très bon réveil à tous.
7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
8h21 sur France Culture, retour à l'école pour tenter de comprendre pourquoi le primaire en France rencontre tant de difficultés, notamment dans les quartiers sensibles. Qu'y a-t-il de si spécifique à l'école que celle-ci a bien du mal à être réformé, même si les réformes se succèdent. Nous sommes en compagnie du sociologue Bernard Lahire. Vous êtes en duplex de Lyon, Bernard Lahire. Vous avez consacré une vaste enquête en France à l'enfance et à l'inégalité des chances. Elle est intitulée « Enfance de classe, de l'inégalité parmi les enfants aux éditions du Seuil ». Quelles sont les spécificités de ces enfants de milieux modestes? Au terme de cette étude, comment expliqueriez-vous non seulement l'inégalité de départ, mais surtout la perpétuation de ces inégalités, Bernard Lahire?
Bah, écoutez, la question est très simple et la réponse est très très longue.
Nous avons du temps.
Très bien. Alors, on va essayer de déplier ça. Si vous voulez, l'école ne peut pas tout faire. Ce que l'on sait depuis très longtemps, c'est que on a affaire à des familles qui sont dans des situations sociales, culturelles, économiques, en matière de logement, de santé, etc., très inégales, que toutes ces inégalités se cumulent dans ces familles. Parfois, on a des cumuls de problèmes d'accès aux soins, problèmes de logement. Il y a des familles qui ne dorment pas dans les mêmes logements d'une semaine à l'autre, ou qui dorment dans leur voiture. C'est le cas d'une famille auprès de laquelle on a enquêté. On a des problèmes qui sont liés évidemment à des absences de revenus ou à des revenus extrêmement faibles. On a des problèmes de maîtrise du langage, des maîtrises d'abord de la langue pour des familles venant de l'étranger, etc., etc. C'est-à-dire qu'après, on peut comme ça prendre la liste, ce que nous avons fait, de toutes les inégalités, et on voit sur des enfants particuliers comment ça se combine, comment toutes ces inégalités se cumulent pour produire des situations parfois très dramatiques. Et qui sont immaîtrisables, en fait, pour l'école, la plupart du temps.
Oui, justement, parce que donc la réforme actuelle est critiquée, mais le ministre Jean-Michel Blanquer dit qu'il ne doute pas que la précédente, comme la suivante, sera également critiquée. N'y a-t-il pas aussi, indépendamment, finalement, des choix, des orientations politiques du ministre en présence, n'y a-t-il pas aujourd'hui une équation qui est quasiment insoluble pour l'école, et notamment la petite école, celle qui prend en charge les enfants dès leur plus jeune âge, Bernard Lahire?
Mais c'est certain, mais si vous voulez, pour qu'on arrive à sortir d'une situation où les uns et les autres sont renvoyés à leurs responsabilités, de temps en temps c'est les familles qui sont plus ou moins accusées, de temps en temps c'est les enseignants. À chaque fois, on essaye de trouver les coupables ou les responsables d'une situation, et on se rend pas compte que c'est tout un système social, c'est toute une structure sociale qui joue dans ces difficultés scolaires d'une partie des enfants, et évidemment en grande majorité dans les milieux populaires. Donc l'école, on peut la réformer, mais le problème, c'est que toutes les causes de l'échec scolaire ne sont pas scolaires, ne sont pas pédagogiques. J'entendais Esther Duflo récemment dire qu'un enfant...
L'économiste, prix Nobel d'économie.
Voilà, je présupposais que tout le monde connaissait son nom du coup. elle disait récemment que on ne fait pas un bon élève d'un enfant qui n'a pas mangé à sa faim. Ça paraît évident, mais en même temps aujourd'hui, la situation de certaines familles force à rappeler que les enfants ne sont pas hors sol. Ils vivent dans des conditions d'existence déterminées, dans des conditions de logement. Je prends un exemple. Hein, vous avez de mauvaises conditions de logement. Je prends le cas d'un des enfants auprès de qui on a étudié, il ne dort pas dans des conditions idéales, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il est dans un foyer Sonacotra, il y a du bruit la nuit, etc. Il arrive, il est loin de l'école en plus. Bon, évidemment que la mère n'a pas de voiture et ainsi de suite. Bon, on peut multiplier les problèmes, les obstacles et les choses difficiles. Et il arrive à l'école beaucoup plus fatigué que d'autres. Alors déjà que sa mère ne parle pas la langue française très bien, elle vient du Sri Lanka, ils ont eu des problèmes d'alimentation, de logement, enfin voilà, la mère ne travaille pas, elle venait d'avoir ses papiers en cours d'enquête, et ainsi de suite. Donc elle n'a absolument pas ni la disponibilité, ni les moyens économiques, culturels, etc. pour pouvoir aider son enfant. Et j'allais dire, dans le même temps, et c'est ça, c'est important, dans le même temps, au même moment, des enfants du même âge, dans d'autres familles, eh ben, ont tout. Voilà, ils ont des parents qui parlent très correctement, qui leur offrent tous les spectacles culturels possibles, qui ont le temps de s'intéresser à la scolarité, qui savent que c'est un espace de compétition, ils vont mettre leurs enfants dans des sports où ils vont pouvoir apprendre le goût de l'effort, l'esprit de compétition, etc. Donc la compétition, elle commence dès l'âge de 5 ans, bien avant même, je dirais. Hein, si on regarde objectivement ce qui se passe, il y a des enfants qui prennent une avance considérable avant même de rentrer à 3 ans à l'école maternelle.
Mais voilà. Est-ce que vous diriez, Bernard Lahire, que ces inégalités, elles se sont accrues ou bien nos exigences démocratiques aujourd'hui font que ces inégalités, celles que vous décrivez, nous paraissent aujourd'hui intolérables ?
Alors, accru, sans doute que oui, pour certaines familles qui sont celles qu'on a étudiées, qu'on voulait absolument faire rentrer dans l'enquête, parce que souvent elles disparaissent un peu des enquêtes comparatives.
Des familles donc en très grande précarité.
Voilà. Toutes ces familles-là dans les enquêtes statistiques.
Alors, par exemple, vous avez une petite fille rome qui a fait son entrée en grande section maternelle. Alors, cette petite fille, effectivement, elle cumule un grand nombre de handicaps parce que son existence est rythmée par les expulsions et les déplacements. Mais si on isole ces cas et que l'on va vers des enfants qui ont moins de problèmes sociaux au départ et qu'on va vers la classe moyenne, puisque vous avez réparti votre échantillon en trois segments.
Oui. Bah, si vous voulez, plus on monte, on va dire, dans les classes populaires, parce qu'il y a des classes populaires qui sont stabilisées, avec des parents qui ont déjà été scolarisés en France, qui ont parfois un petit capital scolaire, un CAP, parfois même un bac professionnel. Ça arrive, on commence à avoir des débuts de stratégie éducative, d'intérêt pour les questions et de compréhension des enjeux scolaires, etc. Je pense même qu'il n'y a pas une seule famille qui est coupable de ne pas percevoir les enjeux scolaires aujourd'hui. On dit souvent les parents laissent aller, etc. Oui. C'est pas du tout le cas, pas du tout. Mais vraiment, ça c'est vraiment pas connaître les situations. Ils veulent tous, parce qu'ils sont pas fous. Ils savent très bien qu'en ayant un diplôme, on est protégé de plein de choses, même si c'est certains diplômes qui protègent de plein de choses et qu'il faut aller le plus loin possible pour être protégé, etc., etc. Mais enfin, quand même, ils savent qu'on s'en sort mieux si on a quelque chose à l'école. Mais par contre, ils ont ni les moyens économiques, ni l'information, ni les bonnes habitudes culturelles, etc. Parce qu'ils sont très éloignés de ces univers-là. Donc, dès qu'on arrive en haut des classes populaires, ce qu'on appelle, ce que Richard Hogarth, un intellectuel anglais qui venait des classes populaires, appelait la classe ouvrière respectable, celle qui est un peu installée, qui ne sombre pas dans la pauvreté, etc. Là, on commence à avoir des petites stratégies, des petits intérêts pour des questions scolaires, pédagogiques, culturelles. C'est évidemment surtout dans la classe moyenne que se déploient ces choses-là, avec une attention aux manières de parler. Le langage est central dans les processus de réussite scolaire, parce que c'est l'accès à un savoir qui prend une forme écrite, et là, il y a la question du langage, de l'appropriation de ces savoirs écrits est vraiment cruciale. Vous avez des parents qui ont des jeux pédagogiques, qui ont le souci permanent, d'une certaine façon, du bon comportement aussi pour être adapté à la vie en groupe, à l'école, etc. terrain. Et puis alors plus on monte, parce qu'après il y a les classes supérieures, alors là vous avez un décollage remarquable. Et vous avez des enfants qui, dès le départ, sont placés dans des conditions qui sont assez rares. Et si on prend le cas de certains, ils ont bénéficié déjà d'aide, enfin de jeunes filles au père anglophone, d'écoles privées où on est dans l'entre-soi bourgeois total.
Oui, des situations très hétérogènes, puisque comme vous l'écrivez, Bernard Lahire, les enfants vivent au même moment dans la même société, mais ils ne vivent pas dans le même monde, si on prend vos trois échantillons. Mais alors, les ministres de l'Éducation nationale, et celui que nous avons aujourd'hui n'y fait pas exception, dit qu'il faut une réforme parce que les familles, toutes les familles, considèrent qu'il y a des choses qui ne vont pas dans l'école. C'est-à-dire que le mécontentement à l'égard des structures, des moyens, vis-à-vis de l'école, et notamment de la petite école, sont importants. Comment l'expliquez-vous ?
Si vous voulez, moi je pense qu'il y a beaucoup de familles qui savent même pas ce qui se passe exactement à l'école, qui comprennent pas tous les enjeux de l'école. Enfin, il faut se rendre compte que les parents de milieux populaires ne savent pas exactement. Ils délèguent très largement aux enseignants. Voilà, faites du mieux que vous pouvez avec mes enfants, parce que moi je sais pas faire. Enfin, venant moi-même d'un milieu populaire, j'ai eu des parents très très bien, mais qui ne connaissaient pas grand chose à l'école et qui ont laissé faire les enseignants. Et de temps en temps ça marche et de temps en temps ça ne suffit pas. Donc il y a plein de parents qui ne sont absolument pas d'une certaine façon au fait de ce qui se passe à l'école pour pouvoir la critiquer, être insatisfait de l'école, etc. Ils subissent plutôt la réalité qu'ils ne la contrôlent ou qu'ils ne la critiquent. Après oui, il y a beaucoup de parents qui sont critiques par rapport à l'école, mais comme les uns et les autres n'ont pas les mêmes intérêts.
Pourquoi justement les mêmes intérêts ? Parce que depuis quand même très longtemps, tous les ministres disent qu'ils vont enfin assurer l'égalité au sein de l'école et manifestement le résultat n'est pas celui-ci. Pourquoi est-ce que d'après vous ces ministres mentent ? Est-ce que les réformes sont inadaptées, Bernard Lahire ?
Je pense mentir...
Bon, ils peuvent très bien poursuivre des buts autres que ceux qu'ils affichent, ça c'est déjà vu.
Non, mais pour un homme politique, mentir, c'est presque la définition, j'allais dire. Donc, le problème, il est que soit ils méconnaissent totalement la réalité des choses, parce que ils prétendent vouloir changer des choses avec un seul levier, parce que voilà, Jean-Michel Blanquer est ministre de l'Éducation nationale, il n'est pas en charge de la politique du logement, de la politique en matière d'emploi, etc. Mais il se rend pas compte qu'une bonne partie de ce qui se passe à l'école ne dépend pas du tout de lui. Et donc, il faut bien qu'il fasse quelque chose et qu'il justifie de sa mission. Mais enfin,
non, mais par exemple, le dédoublement des classes, est-ce que pour vous, ça relève de la gesticulation ?
Non, pas du tout. Pas du tout, mais c'est en deçà, mais vraiment en deçà, et c'est pas pour rajouter, c'est en deçà de ce qu'il devrait être fait si on mesurait vraiment l'état des choses. C'est-à-dire qu'il faut voir qu'il y a des enfants qui, pendant 3 ans, encore une fois, avant d'arriver à l'école maternelle, n'ont pas du tout appris tous les codes culturels, moraux, les rapports à l'autorité, les rapports à plein de choses qui sont évidentes pour beaucoup d'autres enfants qui, dans leur famille, parce que c'est des familles déjà bien scolarisées, qui sont tout à fait adaptées à la situation scolaire, ils préparent leurs enfants à affronter ce monde, à comprendre ce monde, à s'y sentir même bien. Une partie de ce qui distingue les enfants, par exemple, des classes moyennes, des classes populaires, c'est que les classes moyennes, elles ne disent pas à leurs enfants que l'école, c'est un travail. L'école, c'est un plaisir. On y fait des choses qui sont intéressantes, on s'y intéresse, etc. Voilà.
Mais est-ce que ça, vous le retrouvez énorme. Est-ce que vous le retrouvez chez les enfants? Parce que là aussi, les familles peuvent tenir des discours. C'est pas pour ça que les enfants vont nécessairement endosser ces discours.
Alors, la question, c'est pas d'endosser les discours, c'est de savoir s'ils sont fabriqués. socialisés, comme disent les sociologues, avec un mot peut-être un peu barbare, mais enfin, il faut s'y habituer. Les enfants ne sont pas fabriqués de la même façon. Ils ne sont pas formés de la même façon dans les différents milieux familiaux, dans les différents milieux sociaux. Et il y a des choses évidentes qui se fabriquent dans les milieux des classes moyennes et des classes supérieures et qui ne trouvent pas à se fabriquer dans les classes populaires, mais par définition, je dirais.
Donc, Donnez-nous des exemples, Bernard Lahire, au travers de ces différents cas que vous avez étudiés, enfants de classe plutôt défavorisée, classe moyenne et puis classe supérieure.
Bon, si vous prenez par exemple le langage que je disais assez central dans les processus d'échec scolaire, moi j'ai travaillé depuis très longtemps et ma thèse portait là-dessus, sur des questions d'inégalité, d'appropriation du savoir écrit à l'école. On se rend compte que tout ça est lié à des pratiques langagières. Mais ces pratiques langagières sont liées à des pratiques culturelles, à des pratiques de lecture, etc., qui distinguent depuis très longtemps certaines familles d'autres familles. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui, concrètement, ont des arrière-grands-parents qui étaient déjà bacheliers, qui ont parlé d'une certaine façon, qui avaient des habitudes culturelles, de lecture, dans le domaine culturel, des sorties culturelles, etc., et qui se sont transmises de génération en génération. Et au moment où eux, ils naissent, ils ont tout cet acquis-là. C'est-à-dire qu'ils ont des parents qui trouvent normal de les reprendre quand ils parlent, de leur faire bien prononcer certains mots, parce qu'on sait que bien prononcer un mot, c'est pouvoir bien l'écrire à un moment donné. Le travail des orthophonistes, c'est un travail lié à la scolarisation. On s'en ficherait si les gens prononçaient mal, s'il n'y avait pas un problème d'accès à l'écrit. Donc toutes ces choses-là sont extrêmement importantes. On apprend à bien, à correctement prononcer les mots, à utiliser des termes, un lexique qui est très précis. On utilise des syntaxes qui sont aussi complètes, précises, avec le moins d'implicites possible. On fait des lectures aussi le soir aux enfants. Et d'ailleurs, les parents de classe moyenne ou de classe supérieure ne savent pas toujours les effets positifs que ça a. Ils disent des fois, on fait ça parce que ça les aide à bien dormir après. Mais en fait, on sait par des études très précises que le fait de lire des histoires le soir régulièrement est corrélé avec une bonne situation en matière d'apprentissage de la lecture.
Bernard Lahire, voilà. Y a-t-il des systèmes scolaire, autre donc que le système français, qui s'en tire mieux en matière de prise en charge des enfants issus des milieux les moins favorisés?
Ça, c'est ouais, c'est pas mon domaine de recherche, donc je pourrais pas vous répondre. Je pense qu'il y a des différences, forcément, elles doivent exister. C'est pas un sujet qui m'a préoccupé jusque-là. Des comparaisons internationales de systèmes pédagogiques, etc. Parce que moi, je me méfie beaucoup des comparaisons de compétences indépendamment des contextes pédagogiques, des manières de mesurer ces compétences, etc. En revanche, sans doute qu'il y a des pratiques pédagogiques dans certains systèmes scolaires qui sont plus adaptés à certains enfants, il faudrait les étudier de près pour voir quel apport ces pratiques pédagogiques constituent pour une bonne scolarité. Mais de manière générale, dans tous les pays où il y a des systèmes scolaires, dans des sociétés hiérarchisées, dans des sociétés dites de classe, le problème, il est globalement le même. C'est-à-dire qu'il y a sans doute des petites différences, mais le problème, il est largement le même, et qu'on soit en Australie, en Angleterre, aux États-Unis, en France ou en Italie, on a ce même problème-là, des enfants qui ont été socialisés dans des milieux sociaux très différents, est très éloigné, enfin inégalement éloigné, pardon, du système scolaire, eh bien, n'ont pas les mêmes scolarités. C'est d'une certaine façon quasi mathématique. Je m'étonne encore de l'étonnement des responsables politiques là-dessus.
Alors, on peut dire que tous les sociologues sont d'accord sur ce constat. Ensuite, il y a évidemment des divergences dans les explications.
Oui.
Si je voulais représenter ça de manière extrêmement schématique, et il y a une école, alors elle est évidemment incarné par Pierre Bourdieu, qui explique que finalement, le système fait tout pour se reproduire et qu'il y a toute une série de modes de sélection qui sélectionnent en fait des gens déjà sélectionnés, un peu comme on apprend aux poissons à nager. Et puis, il y a une autre école qui explique que finalement, le problème des classes les moins favorisées, c'est qu'elles ne parviennent pas à s'orienter est dans le maquis scolaire. Qu'est-ce que vous en pensez de ces deux termes ?
Ah, mais je pense que ça ne s'oppose absolument pas, puisque moi, en permanence, j'ai vu les deux. C'est-à-dire que c'est des choses qui se cumulent. C'est-à-dire que les parents n'ont pas toujours la bonne information en général pour s'orienter dans le système scolaire, ça c'est évident. Mais évidemment, l'école essayant de faire à peu près la même chose avec des enfants fort différents, ils n'arrivent pas au même résultat. Alors, par ailleurs, l'école n'est plus la même partout depuis un bon moment. Donc il y a aussi des inégalités. C'est-à-dire qu'il y a des inégalités. Le recours au privé dans des conditions où on a plus de moyens, où on est dans un entre-soi qui fait perdre moins de temps, comme disent les parents, etc. Bon, évidemment que c'est pas les mêmes situations que dans des quartiers populaires où les difficultés se cumulent et où les enseignants ont à faire face à des classes remplies de problèmes d'une certaine façon. Donc forcément que la vitesse d'accès au savoir est beaucoup plus lente.
Mais alors, est-ce que l'abandon, peut-être que vous ne serez pas d'accord, mais l'abandon dans le discours politique d'une certaine forme de méritocratie à la française, est-ce que c'est la fin d'une hypocrisie parce que ça ne servait à rien la méritocratie, ou est-ce que c'est au contraire quelque chose de salutaire parce que ça n'est pas comme ça que l'on peut tenter de réduire les inégalités, Bernard Lahire?
Je pense que la méritocratie, on juste, en tant que sociologue, en tant que chercheur en sciences sociales, on constate que ça n'est pas la bonne description de la réalité. C'est-à-dire que dire que certains méritent plus que d'autres, je ne comprends pas, à la limite, qu'on puisse poser les problèmes ainsi. Ils sont beaucoup plus compliqués. Il n'y a pas un élève de milieu classe sup qui ne mérite pas ce qu'il a, d'une certaine façon, puisqu'il a réussi des exercices, il a réussi des concours, etc. Donc, il n'y a pas de doute sur le fait que les gens qui réussissent à l'école ont mérité d'avoir réussi leur concours, avoir décroché leur diplôme, etc. Mais les conditions de travail des autres, de ceux qui ne réussissent pas, qui sortent du système scolaire, encore sans qualification, il faut aussi parler de cela, mais qui ont des petits capitaux scolaires, qui ont des difficultés qu'ils traînent tout au long de leur parcours scolaire, ces enfants, ils sont aussi méritants, ils font ce qu'ils peuvent, et souvent, ils peuvent pas grand-chose. Et parce que c'est l'effet de la distance, encore une fois, de leur milieu familial et du milieu scolaire. Tant que les politiques ne comprendront pas que c'est une politique de redistribution globale des richesses, d'aide au logement, d'aide à l'alimentation, d'aide aux soins, etc., qui, de manière générale, contribuera à une meilleure situation des enfants à l'école, voilà, on ne sortira pas du problème. Moi, je vous garantis que si on continue comme on fait, dans 50 ans, votre successeur parlera à mon successeur ou la personne qui sera en charge de parler de ces problèmes à ce moment-là, exactement des mêmes problèmes, parce qu'il n'y a aucune raison que ça change.
On a même l'impression que ça empire, alors pas forcément pour les inégalités scolaires, ça vous êtes plus qualifié pour le dire, mais sur le surinvestissement scolaire, qui est évidemment le fait plutôt des classes les plus favorisées, ça c'est quelque chose d'assez frappant et qui est constaté un peu partout, Bernard Lahire.
Oui, bien sûr. Les enjeux scolaires, plus vous êtes dans une situation de crise avec un chômage qui touche, y compris les enfants des classes moyennes et des classes supérieures, de manière très inégale par rapport, évidemment, à d'autres enfants qui ont moins d'atouts, moins de réussite scolaire, etc. Mais le chômage est là, qui pèse sur les consciences des parents, et du coup, la compétition commence très très tôt. Nous, c'est ce qui nous a un peu aussi surpris dans cette enquête. On se disait, on va prendre des enfants en grande section de maternelle, c'est un début d'enjeu parce que on commence à rentrer dans les cris, etc. Bon, mais enfin, c'est pas encore le CP, et puis beaucoup de gens disent, oui, enfin, la compétition, elle commence après, quoi, ça commence après. Non, la compétition a commencé. Elle a commencé déjà parce que il y a déjà des parents qui savent très bien que en mettant leurs enfants à des à des initiations à de l'anglais dès l'âge de 3 ans, ce sera plus facile pour eux. On a des enfants qui ont 5 ans et qui visitent des musées à qui les parents leur expliquent qu'il y a des mythologies derrière ou des scènes bibliques. Bon, ben ça, c'est des choses que vous pourrez recaser plus tard dans vos rédactions, dans vos dissertations, etc.
Et si vous me permettez...
la compétition a commencé très très tôt.
Et si vous me permettez cette question personnelle, puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure, Bernard Alaïr, ce sont des monographies, des études de cas, et votre livre « Enfance de classe » publié aux éditions du Seuil. Le cas de Bernard Alaïr, vous venez d'un milieu modeste et vous êtes aujourd'hui l'un des plus grands sociologues français. Comment expliquez-vous cette réussite scolaire?
Alors là, en 2 minutes, je n'y arriverai pas. Mais disons
peut-être un prochain livre, mais donnez-nous les premières lignes.
Je préfère étudier le monde social que simplement mon cas. Alors je l'évoque quand on me pose la question. Mais enfin, si vous voulez, il y a plein de facteurs qui expliquent ça. Je n'étais pas d'un milieu les plus pauvres, clairement. Je dis souvent que j'avais une mère frustrée scolaire qui avait dû arrêter sa scolarité. Elle avait un certificat d'études primaire et elle avait arrêté après. Mais elle aurait pu, c'était un cas de personnes qui pouvaient aller au lycée, mais qui a arrêté parce que c'était l'aîné de ses frères et sœurs, et elle a été seconde maman, on va dire, comme fonction. Donc, du coup, elle a reporté sur ses enfants un intérêt, un sérieux, un petit peu comme les grands-parents, la grand-mère de Richard Hogarth, que j'évoquais tout à l'heure, qui est une figure de transfuge de classe. Qui était sociologue anglais et qui avait été transfuge de classe, qui était sorti des classes populaires anglaises, qui est devenu un grand intellectuel.
On aimerait bien, en tout cas,
qui était très très attentif, on va dire, à sa scolarité.
On aimerait bien, en tout cas, le lire, cet ouvrage, Bernard Alaïr. Merci d'avoir été en notre compagnie.
Merci
ce matin, Enfance de classe, de l'inégalité parmi les enfants. C'est votre livre publié aux éditions du Seuil. Dans quelques instants, la séquence TTC, Mathilde Serrel-Hervé-Gardette et Aurélien Bélanger vont s'élancer.